Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Marcel.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons une dernière fois évoquer Julien Viau, plus connu sous le patronyme de Pierre Loti, non, qui est celui d'une fleur exotique que donnera la reine de Pomarez il y a longtemps. Julien Viau, donc Pierre Loti, est né le 14 janvier 1950 à Rochefort. Il sera officier de marine. Et nous allons également retrouver sa famille, et je devrais dire sa double famille, car en plus de son épouse, la périgordine Blanche Franc de Ferrières, qui enceinte de six mois, fera une chute, perdra son enfant, demeurera sourde malgré de nombreux traitements avant de donner naissance à un fils prénommé Samuel. En outre, il installe à Rochefort une jeune femme basque, espagnole, Crucita Gaiza, qui donnera quatre fils qu'il ne reconnaîtra pas. Deux décéderont en bas âge. En 1891, il est élu à l'Académie française au fauteuil 13 qu'occupait Octave Feuillet et s'installe à Hendaye, région basque, qu'il affectionne particulièrement. Retraité en 1910, il reprend volontairement du service la déclaration de la guerre de 1914. Après plusieurs missions, il est démobilisé le 31 mai 1918, en raison de santé. Il est cité à l'ordre de l'armée et son fils est cité également, bénéficie de cette citation. Alors voilà l'article qui a apparu bien sûr dans l'illustration du 13 juillet 1918. Pierre Loti est cité à l'ordre de l'armée. Nous ne voulons pas attendre la publication de notre prochain fascicule du tableau d'honneur de la guerre pour donner le texte de la belle citation qui vient d'être décernée par le général commandant en chef au commandant Viau, capitaine de vaisseau, lequel n'est autre, on le sait, que l'illustre écrivain Pierre Loti. Voici cette citation. « Bien que dispensé par son âge de toute obligation militaire, il a repris du service dès le début de la guerre, donnant ainsi un bel exemple de dévouement et de patriotisme rempli sous le feu de l'ennemi, notamment à la tête de Béhoul, qui est à l'est de Saint-Dié, en forêt d'Apremont, et au fort de Manouvilliers, plusieurs missions dont il s'est acquitté à l'entière satisfaction de ses chefs. » Avant cette citation, les lecteurs de l'illustration savaient déjà par plusieurs des articles que le grand écrivain nous a donné depuis 1914 que, ne servant plus à la mer, il avait réclamé un poste sur le front. Dans notre tableau d'honneur, nous avons l'occasion de publier ensemble les portraits du commandant Viau et du maréchal des logis Samuel Viau, son fils, qui a gagné lui aussi la croix de guerre. Alors, il y a cette citation, il y a un portrait, et il est, comment je pourrais dire, il est en tenue de l'armée de terre et non plus de l'armée de marine. Voilà, alors donc, pour poursuivre sa production littéraire, n'en continue pas moins, on peut citer quelques titres, La Grande Barbarie, La Hyène Enragée, Quelques Aspects du Vertige Mondial, Les Massacres d'Arménie, Cours Intermède au milieu de l'horreur, ouvrages qui reprennent bien souvent des articles publiés dans l'Illustration ou d'autres revues. Alors, atteint d'une hémiplégie, en 1921, il décède à 73 ans le 10 juin 1923 à Hendaye et aura droit à des obsèques nationales. Alors, veillé par de Marais en armes, son cercueil recouvert d'un drapeau tricolore sera déposé dans la salle gothique de sa maison de Rochefort, transformée en chapelle ardente, avant d'être transporté à l'île d'Oléron par un aviso escorté de 4 destroyers. Voici ce que nous en dit un article signé Jean-Claire Guyot, publié dans l'Illustration du 23 juin 1923, avec une très belle photo qui représente cette grande salle avec le cercueil recouvert de beaucoup de fleurs, de couronnes et de marins en armes qui le veillent. Et l'article est intitulé « De Rochefort à Oléron ». Alors Pierre Loti, qui avait préparé sa tombe, avait aussi donné des instructions formelles pour ses obsèques, cérémonies sans apparat et sans discours. Il voulait éviter ainsi la banalité d'une trop grande pompe funèbre. Ses désirs ont été respectés, néanmoins ceux qui l'ont conduit jusqu'au tombeau conserveront le souvenir des tableaux émouvants et grandioses et à leur simplicité, même qu'ils se sont succédés au cours de cette dernière étape de Rochefort à l'île d'Oléron. À 8h ce matin, rien n'avait encore modifié l'esprit tranquille de Rochefort dans la rue Lafayette, qu'il faut traverser pour aller à la maison de Pierre Loti, en suivant la voie qui porte le nom du maître, le marché s'installait, comme chaque samedi, donnant à ce quartier un peu plus d'animation. Devant la maison mortuaire, dans la petite porte de gauche de la façade, était depuis la veille encadrée d'une très modeste tenture noire. Les groupes de curieux observaient en ville que dans la nuit, à 3h du matin, un fourgon automobile avait apporté là de Bordeaux la dépouille du commandant et que de 9 à 11 heures le public serait admis à défiler dans la chapelle ardente. Alors seulement, la rue Pierre-Loti s'anima et les habitants recueillis vinrent s'incliner devant le cercueil déposé pour quelques heures au rez-de-chaussée de la maison, dans la grande salle gothique dite salle des gardes. La bière était au couvert d'un drapeau français sur lequel un coussin était posé portant le grand cordon de la Légion d'honneur et quelques décorations, tout autour des fleurs et au pied une grande ancre marine à œillets rouge magenta. Dans la salle de marin en armes montait la garde. À 1h de l'après-midi, un prolonge d'artillerie décoré de drapeaux et attelé de 6 chevaux vint prendre le corps pour le transporter jusqu'à l'arsenal. La musique et le drapeau du 3e régiment colonial marchaient en tête du cortège et se formaient alors pour le passage dans la ville. Des marins ayant l'arme sous le bras encadraient la voiture, puis venait la famille, M. Samuel Viau, sa mère et sa jeune femme, des personnalités officielles parmi lesquelles Léon Bérard, ministre de l'instruction publique, l'amiral GN, représentant le ministre de la Marine, le préfet, etc. Remarquez aussi M. Bartou, ancien président du conseil, venu comme ami intime du défunt. Alors, par les rues Lafayette et tout faire, le cortège gagna l'arsenal et pénétra en passant sous la haute porte qui semble un arc de triomphe quand le prolonge d'artillerie s'arrêta au bord de la Charente sur le quai où était amarré le chamois. Des marins prirent le cercueil qu'une grue souleva ensuite doucement pour le déposer sur le pont du bateau. À ce moment, une sonnerie de clairon se fit entendre lentement. Le chamois se mit en marche sur l'eau calme de la rivière au passage des populations rangées le long des berges et saluées et lancées des fleurs. Alors l'article continue ainsi. Un peu avant 4 heures, le chamois arrivait en mer. 4 torpilleurs, l'Algérien, l'Arabe, le Kabyle et le Sakalave, l'escortèrent. C'était l'hommage de la marine à l'illustre marin qu'elle venait de perdre. Sur la mer un peu houleuse, dans les eaux grises, se confondait très vite avec le ciel. Et ce nouveau cortège continua jusqu'à l'île d'Oléron. Une heure plus tard, près de la côte, le chamois stoppa. Un canot remorqué par un petit vapeur vint se ranger près de lui à bâbord. Et l'on y descendit le cercueil, tandis que de nouveau une sonnerie de clairon se faisait entendre. Puis aussi le bruit sourd de 3 salves de mousquets. Un moment, le canot fit quelques bonds sur les derniers remous de la mer, puis il glissa doucement sur l'eau calme de la petite rivière d'Oléron jusqu'à Bayerville. On touchait au but. Un fourgon automobile transporta le corps de Pierre Loti à 7 km vers le milieu de l'île. Sur son passage, des paysannes portant des vieilles coiffes de lin blanc s'inclinaient avec respect, des enfants lancés sur la route, des fleurs, des champs spécialement cueillis. À Saint-Pierre-d'Oléron, des soldats et les pompiers prirent le cercueil pour le porter jusqu'au petit temple protestant où le pasteur dit une courte prière. Puis par une étroite rue où les enfants alignés le long des trottoirs jetaient des fleurs sur la chaussée, le corps de Pierre Loti fut conduit jusqu'à la maison des aïeuls où il avait demandé qu'on le déposât quelques heures avant l'inhumation. Là encore, des prières furent dites par monsieur le pasteur Marc Boer, venu de Paris. Puis la foule s'écoula et au crépuscule, dans la plus stricte intimité, Samuel Viau, aidé de quelques marins, mit son père dans une fosse très profonde, ainsi que Pierre Loti l'avait exigé pour être mieux et plus vite mélangé avec la terre. Voilà donc le récit de cette inhumation. Alors, il y a dans ce même numéro de l'illustration d'article intitulé « La maison de l'île » et il est signé Gaston Chéreau et nous parle de l'île Oléron et de la maison des aïeuls. Et cet article est intitulé « La maison de l'île ». L'île, lui, Loti ne disait pas l'île Oléron, il écrivait l'île comme s'il n'y avait qu'une île pour ce marin qui en avait tant vu. Cela signifie qu'il gardait au plus secret de son cœur la tendresse que nous avons tous pour l'endroit. Notre première enfance apparaît des plus belles grâces, les plus menteuses parfois. Du moins, elles mentent à d'autres, elles ne mentent pas à nous-mêmes. Là, pour ce petit que le destin façonnait et qui se préparait à devenir le poète et le peintre, épris de tant de spectacles, opposés qu'il y avait le berceau de ses rêves et de ses premiers effrois délicieux. Pour s'y rendre, a-t-il dit dans le roman d'un enfant, c'était tout un voyage à cause des mauvaises voitures campagnardes, des barques à voile dans lesquelles il fallait passer, souvent à grande brise d'ouest. À cette époque, dans la petite ville de Saint-Pierre-dans-l'Hérault, j'avais trois vieilles tantes qui vivaient modestement des ressources de leur maréchal, des bruits de fortune dissipés et de redevances annuelles que des paysans payaient encore en sacs de blé. Quand on allait les voir à Saint-Pierre, c'était pour moi une joie mêlée de toutes sortes de sentiments compliqués, encore à l'état d'ébauche que je ne débrouillais pas bien. L'impression dominante, c'était que de leur personne, l'austérité de notes, de leur allure, leur manière de vivre, leur maison, leurs meubles, tout enfin daté d'une époque passée, d'un siècle antérieur, et puis il y avait la mer qu'on devinait tout autour. Voilà. Donc, c'est ce qu'écrivait Pierre Loti dans le roman d'un enfant. Alors, cet article se poursuit ainsi. Voici et qui par-dessus tout l'attirait et le séduisait. Or, cette île charmante, a conservé son visage autrefois, ses forêts de pins ont grandi. Le pays pauvre jadis est devenu riche, mais les villes et les villages sont demeurés intacts avec leurs maisons basses, leurs murs constamment reblanchis et leurs volets verts repeints. Alors, l'article, je ne vais pas vous le donner en entier parce qu'il est assez long, mais il continue ainsi. Cet ordre et cette propreté n'ont pas été sans causer quelques soucis à celui qui avait gardé un tel amour pour la maison des ancêtres. Pierre Loti, en février 1899, avait acquis l'immeuble. Il appartenait alors à l'héritière d'un pasteur protestant. Il y avait installé une école à droite du grand portail d'entrée, mais rien dans l'aspect de l'habitation et de ses dépendances n'avait été modifié. Elle est demeurée telle que l'a décrit l'acte d'acquisition qu'il signait. Le 2 juin 1671, faisait entrer dans la famille Renaudin la maison qu'on nommera désormais la maison des aïeuls. On y note le logis à fesses et à planches et divers autres corps constituant en plusieurs chambres basses et hautes, celliers, greniers, chais et granges, un jardin dans lequel il y a un puits, celui qui devait être planté de buis arborescents disposés en croix de malte à la suite dont sont le verger et la charmée où samedi soir, pendant quelques intimes, ont pu prier sur le corps du maître qui a été déposé et plus loin un petit bois et un pré. Voilà. Voilà donc cet article. Alors, moi, je vais terminer. Alors, bien sûr, blanche presque aveugle, retirée définitivement au Bertranais, décédera en 1940 et sera inhumée dans le cimetière privé des Francs de Ferrières à Pomport, en Dordogne, évidemment. Un cyprès fut planté auprès de sa tombe. Samuel, son fils, épousa Élise Charlier, fille du préfet maritime de Rochefort, et décédera en 1970. Alors, outre le journal, il publiera plusieurs ouvrages concernant son père, et en 1923 paraîtra un jeune officier pauvre, sa correspondance, et son journal sera également publié, comme je viens de le dire, par son fils à partir de 1924. Alors, 100 ans après le décès de Pierre Loti, que reste-t-il de son œuvre? Ses romans sont toujours disponibles. Il existe un prix Pierre Loti, décerné en 2007, il récompense chaque année un récit de voyage. Alors plusieurs thèmes reposent sur son effigie, il y en a un à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a un en Polynésie et en Terre australe. Une pièce en argent de 10 euros le représente dans la collection Les Euros des Régions pour Poitou-Charentes. Alors sa maison de Rochefort est en rénovation complète avant sans doute d'être ouverte au public. Après la Première Guerre mondiale, il y a quelques adaptations cinématographiques de Ramuncho, en 1919 par Baron Selly, en 1938 par René Barbéris et avec Louis Jouvet et Madeleine Ozeray, et 1959 par Pierre Schoendorfer avec Mijanou Bardot, Gaby Morlet et Roger Hanin. Alors il y a beaucoup de biographies, analyses de son œuvre, donc de Pierre Loti lui seront consacrées, et ainsi que l'exposition notamment de ses dessins. Et en 1995, une émission de Thalassa sera faite depuis sa maison de Rochefort. Pour plus de détails sur Loti, sa famille, voire Internet, et je signalerai une intervention de Louis Ecker, président d'honneur de l'ARA concernant Blanche Franc-de-Ferrière, faite à la Mosie Saint-Martin en 2011. Et elle est très documentée, cette intervention, et elle est également visible sur Internet. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mon temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.